Patilla da badava, ti batunda. Patilla da badava, ti batunda. À tire d'aile, 23e émission. À tire d'aile préparée ce soir par des femmes qui ne font pas partie de l'émission habituellement, sauf Christine qui est à côté de moi. Donc préparée par Pascal, Bernadette et Christine. La technique est faite par Catherine ce soir et par Frédéric qui nous a accompagnés fort gentiment et fort habilement dans les interviews que nous avons réalisées pour cette émission qui a pour thème « Femmes et pouvoir ».
Minha casa vive aberta, abre todas as portas do coração. Água de beber, água de beber, camará. Água de beber, água de beber, camará. Água de beber, água de beber.
Femmes et pouvoir, un sujet qui paraît un petit peu ardu ou un petit peu difficile à aborder. Il faut peut-être vous expliquer que pour cette émission, nous avions initialement le projet de faire un numéro spécial ou un volet supplémentaire sur femmes et politique. De femmes et politique, comme la période des municipales nous y entraînait, nous nous sommes dit ben, peut-être qu'il serait intéressant de regarder à niveau local les femmes donc par rapport aux municipales. Et puis on tournait la question dans tous les sens, on n'arrivait pas à trouver quelque chose qui nous intéresse d'une part suffisamment et qui nous semble suffisamment démonstratif de la façon dont les femmes se situent par rapport à ce type de problème. De fil en aiguille, on en est arrivé à se poser finalement une question bien plus générale et peut-être plus intéressante, au moins pour nous, c'est ce que nous avons pensé, c'est-à-dire femmes et pouvoir. Poser la question de savoir comment vivent le pouvoir, comment assument le pouvoir, comment conçoivent le pouvoir par des femmes qui, à des postes et à des responsabilités différentes, ici à Rennes, ont des responsabilités importantes, c'est ce qui nous a guidés pour cette émission. Alors donc, Christine, nous avons rencontré en tout 6 femmes.
Oui, nous avons rencontré 6 femmes. Nous avons rencontré Annick Elias, conseillère municipale, déléguée à l'information.
Qui est elle donc un poste de responsabilité politique ?
Politique, oui. Nous avons rencontré Catherine Renard, qui est actuellement documentaliste au Centre Information Jeunesse Bretagne, mais qui auparavant en était directrice. Alors elle va un petit peu aussi nous expliquer pourquoi est-ce qu'elle a démissionné. Ensuite, nous avons Maddy Pierret, qui est adjointe au directeur à l'Office social et culturel de Rennes. Nous avons aussi Catherine Verger, qui est journaliste.
Qui est journaliste, oui, que nous avons rencontrée pour savoir un petit peu plus comment elle-même se situait par rapport au pouvoir, qu'elle peut côtoyer toute la journée. Mmh. Et enfin,
deux secrétaires d'une organisation syndicale de Rennes. Si nous ne donnons pas leur nom, c'est parce qu'elles nous ont demandé de garder l'anonymat.
Voilà, les présentations sont faites. Nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. La première question qui nous a intéressés, qui nous a interpellés, c'est de savoir comment les femmes sont arrivées à des postes de responsabilité. Comment est-ce qu'elles ont pu acquérir le pouvoir qu'elles exercent actuellement? Première réponse, c'est celle...
C'est celle d'Annick Elias.
Qui est donc, je vous le rappelle, responsable de l'information au sein de la mairie de Rennes.
Elle résulte d'une prise de conscience à la sortie du monde universitaire et à mon entrée dans la vie professionnelle. Bon, j'ai eu l'occasion à 21 ans, donc juste après ma maîtrise de sciences économiques, de rentrer dans une activité, disons, dans le secteur administratif. Et ce que j'ai pu y observer m'a décidé, m'a convaincu qu'il fallait agir. J'ai, par souci d'efficacité, disons que j'avais des idées à l'époque politique. Disons que j'étais ce qu'on appelle une sympathisante politique et plus précisément PSU. Mais à partir du moment où j'avais décidé d'agir, je me suis reposé le problème de mon appartenance politique. Et c'est après une analyse de la situation politique française que j'ai décidé d'adhérer au Parti Socialiste. Parce qu'il existait aussi à cette époque-là un renouveau du Parti Socialiste et on entendait parler du CRS. Je ne sais pas si vous connaissez le mouvement qui est le renouveau du Parti Socialiste à ce moment-là. Bon, la SFIO avait des... On s'interrogeait, enfin les jeunes s'interrogeaient sur les idées portées de la SNFIO et le mouvement du CRS m'a fait rentrer au Parti Socialiste avec une double approche. Premièrement, c'était une volonté très évidente de réforme très profonde et deuxièmement, une stratégie d'union de la gauche. Je suis donc rentrée au Parti Socialiste sur ces idées-là. Comme je vous le disais tout à l'heure, il s'agissait d'un véritable renouveau du Parti Socialisme en Bretagne. C'était en 71, 72, 73, vous voyez l'époque. Et très rapidement, pour des raisons à la fois professionnelles, de personnalité aussi, j'ai été amenée à prendre des responsabilités à la section d'Ille-et-Vilaine, puisque je suis rentrée au bureau de ce Parti Socialiste. Et quand je n'ai plus tout à fait les années, c'était en 75-76, je suis rentrée au bureau de la Fédération des Partis Socialistes.
Deuxième réponse, Catherine Redard, ex-directrice du Centre d'information jeunesse Bretagne.
D'abord, le pouvoir, il est relatif. Le Centre d'information jeunesse est une structure régionale qui amène quand même à avoir un certain nombre de personnages importants et à travailler avec des structures administratives, associatives importantes sur la région. Mais le pouvoir, il n'est pas exorbitant. Il faut quand même relativiser les choses. Ça n'empêche que... Bon, j'avais donc la direction du CIG et que c'était une situation de pouvoir, oui. Alors, comment je l'ai vécu Je crois que je l'ai... D'abord, je ne l'ai pas voulu. Je ne l'ai pas cherché. On me l'a donné, ce pouvoir. Et je pense que c'est important à préciser et que pour moi, ça a été une façon de bien le vivre parce qu'on me l'a donné, mais je ne l'ai pas ni brigué, ni fait des démarches pour l'avoir. Hein. C'est quelque chose d'abord d'important pour moi. Et puis je l'ai vécu relativement bien pendant les premières années parce que c'était tout nouveau, tout beau et qu'on pouvait créer, imaginer tout un gros paquet de choses. Que d'abord, on était aussi une équipe de femmes. Je crois que c'était aussi quelque chose d'un petit peu, j'allais dire, d'innovant comme les chercheurs dans le domaine social. Et que tout ça était stimulant. Et puis le CIG était tout petit, on était entre nous. On faisait ce qu'on voulait et on avait notre propre notion du pouvoir. Et puis, au bout d'un moment, l'extérieur a été plus fort que nous, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu continuer à avoir la vision du pouvoir qu'on avait jusque-là. Push on forever and a day. This is the Ice Age. 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 This is the Ice Age.
tout de suite Maddy de la direction de l'OSR.
Quand j'ai commencé à travailler dans le secteur précis où j'interviens maintenant, je ne connaissais rien, ce qui s'appelle rien. Donc je suis partie de zéro. Je n'avais pas du tout de formation pour faire ce genre de travail. J'avais seulement fait du droit, bon, ce qui me donnait un minimum, disons, de compétences par rapport à une aide à la vie associative sur ce plan purement juridique. Mais je n'étais pas formée à cela. Et je considère que j'ai donc d'abord acquis des compétences qui m'ont permis d'acquérir parallèlement une maîtrise de mon travail pour mieux l'organiser, pour le faire fonctionner de la façon la plus efficace, et en est découlée automatiquement la prise de responsabilité et d'où pouvoir et sans doute autorité. Tu vois, je vois les choses comme ça. Tries to uncover the reason why such a city with all of its charms can't conquer the sadness I'm feeling. Champs-Élysées, hey, now what do you say? If I could be here tomorrow, wouldn't be here today. Champs-Élysées, hey, now what do you say? If I could be here tomorrow, wouldn't be here today. One day in Paris. One day in Paris. My spirits, they're left on the ground far below. My thoughts are as foreign as the sights that surround me. Alors à propos de ces interviews, ce qui nous a beaucoup frappé, c'est qu'on s'est aperçu que quand on est allé les voir, elles avaient déjà beaucoup réfléchi sur la notion de pouvoir et que visiblement, elles l'avaient déjà beaucoup remis en cause aussi.
C'était un peu la première chose qui nous a effectivement attiré, c'est que les femmes qui assument des responsabilités se sont déjà elles-mêmes posé la question de savoir comment elles le vivaient, comment elles pouvaient le faire. Et puis tout de suite, on en est arrivé à essayer de comprendre pourquoi les femmes qui avaient du pouvoir ou qui avaient des responsabilités quelque part, elles n'étaient pas très nombreuses. C'est vrai que ça reste encore une minorité de femmes qui assument des postes importants. Alors, en discutant de ça avec différentes personnes qu'on a pu rencontrer, la réponse quasi unanime qui vient, y compris et surtout des femmes qui ont du pouvoir, c'est le manque de disponibilité en général des femmes pour assumer des boulots qui sont extrêmement prenants, des tâches qui demandent d'avoir aucun horaire, qui demandent... Vous allez l'entendre, elle l'explique très bien. Tout de suite, c'est Maddy Pierret qui répond.
Je pense qu'on vit toujours quand même dans une société où, quoi qu'il en soit, les hommes, d'une part, sont beaucoup plus disponibles. Je veux dire par là que les femmes, même si... C'est assez curieux, la société reste phallocratique, je veux dire, d'une part. Et donc, il y a une question de disponibilité. Il n'y a pas que ça. Quand on prend des femmes, disons, d'un niveau moyen, mettons bac plus 3, c'est-à-dire licence, maîtrise, des choses comme ça, de la même promotion, je ne sais pas, il y a des études qui ont été faites, mais je vous sortirai plus les chiffres parce que je ne m'en souviens pas. En tous les cas, on le remarque autour de nous. Donc, de la même promotion, le garçon se retrouvera directeur commercial d'une entreprise et la femme secrétaire de direction, par exemple. Et on pourrait prendre comme ça des tas d'exemples des gens qui sortent de fac et de voir les niveaux de responsabilité qui leur sont alloués. Bon, je trouve d'ailleurs que c'est aberrant sur le plan économique, puisque justement, on paye les femmes moins cher en général que les hommes et que souvent, ils gagneraient à prendre un niveau supérieur. Bon, enfin, ça, c'est une autre affaire. Et ensuite, je pense que dans la profession, quoi qu'il en soit, et sauf cas très rare, les femmes se trouvant sur le marché du travail se trouvent aussi dans la période de maternité. Et automatiquement, il y a une, je dirais, indisponibilité, même intellectuellement. On est pris par des soucis familiaux, quoi qu'il en soit. Et par une volonté aussi, peut-être plus ancrée chez nous, de vivre et de vouloir vivre avec ses enfants. Enfin, quand je dis avec ses enfants, c'est vivre tout bêtement, c'est-à-dire ne pas laisser passer le temps où les enfants vont grandir et puis un jour, on découvrira que, ben, ma foi, on a eu des enfants, oui, mais on ne les connaît pas. Je pense que les femmes sont beaucoup plus sensibles à ça. Dans la période justement où on construit sa carrière et où les hommes mettent tout leur dynamisme et leur force à créer leur carrière. Bon, alors je crois que ça joue quand même énormément. Bon, je sais, par exemple, j'ai des copains qui avaient fait une enquête sur nos organismes socioculturels et ils m'avaient dit, on est surpris, tu es la première femme que l'on rencontre, d'ailleurs la seule en France à ce niveau de poste précis. Bon, faut reconnaître aussi que justement ce genre de poste entraîne On est complètement bouffé. Je veux dire, j'ai eu 3 enfants, j'étais divorcée, donc je n'avais pas tellement de problèmes de contraintes extérieures, sauf mes enfants. Bon, mais comme elles étaient déjà grandes, ça m'a permis d'équilibrer. Mais je ne vois pas très bien autrement comment une jeune femme chargée de jeunes enfants pourrait assumer un boulot comme celui-là. À mon avis, c'est pas possible.
On écoute maintenant Catherine Verger, journaliste à l'événement.
Pour bien faire son métier, il faut être assez disponible. Et peut-être qu'une femme mariée, ayant des enfants, est incapable de mener les deux de front, je crois. Enfin, si quelqu'un a des enfants, il faut quand même s'en occuper. Et si on ne peut pas compter le soir, enfin, sur une heure précise pour rentrer ce soir, enfin, je pense que ça poserait des problèmes. Bon, c'est surtout en province, effectivement, parce que à Paris, c'est moins vrai, bien que les femmes sont encore cantonnées à beaucoup de rubriques comme éducation culturelle ou bien rubrique culturelle. Mais il y a quand même plus de femmes dans la profession. Il y avait un essai de création d'une association des femmes journalistes. Je crois que ça n'a pas tellement eu d'écho parmi la profession.
Nous avons rencontré également deux personnes qui travaillent dans une organisation syndicale, qui sont secrétaires. On tenait beaucoup à rencontrer aussi des femmes qui, elles-mêmes, ont sans doute du pouvoir au niveau où elles sont, mais qui sont confrontées quotidiennement à des gens qui assument pleinement des responsabilités, des situations de pouvoir. Et voilà ce qu'elles nous ont dit sur le fait qu'il y avait finalement peu de femmes parmi les hauts responsables des syndicats.
Alors, les permanents syndicaux sont souvent des hommes, presque tout le temps des hommes. Hein. Par contre, ce que j'ai remarqué dans le secteur où je travaillais, moi j'avais affaire à pas mal de femmes dans mon secteur, mais des femmes qui sont déléguées syndicales, déléguées du personnel, déléguées au comité d'entreprise. Mais dès qu'il s'agit de rentrer dans des structures syndicales, il y a très très peu de femmes. Et lorsqu'il y a des femmes dans nos structures, hein, ce sont essentiellement des femmes célibataires ou divorcées, mais très peu. À chaque fois qu'on monte dans la hiérarchie, à chaque fois, bon, on voit les femmes diminuer, quoi. Il n'y en a presque plus. Alors, à la base, dans mon secteur, il y en avait beaucoup, beaucoup. Puis quand on monte, il n'y a presque plus personne. À partir du moment où on rentre dans les structures, les autres structures syndicales, c'est souvent sur du temps personnel et c'est vraiment difficile quand on est marié, quand on a des enfants, c'est difficile, les femmes peuvent pas, quoi. Puis après, on est amené à des déplacements à travers la Bretagne, à Paris, et ça pose d'énormes problèmes. Puis c'est pour ça, je crois qu'après, au fur et à mesure, on voit les hommes dans les structures et pas les femmes.
Annick Elias, elle, nous a donné une réponse un petit peu différente.
L'engagement n'est pas différent. C'est un engagement personnel, quel qu'il soit. On doit prendre un certain nombre de composantes, familiales, professionnelles, individuelles, enfin de temps, hein, de temps libre. Je crois que c'est la même chose pour chacun. Mais par contre, il est vrai qu'il y a des difficultés pour une femme à se décider. Mais je dis que souvent, les problèmes sont doubles. Ils sont personnels, enfin de l'individu, pour faire la démarche. Et ensuite, il y a un problème d'environnement et qu'il ne faut pas négliger.
Oiseau bavard, coquet, en lissant ses plumes sur l'arbre qui se balance au gré d'un souffle nocturne plus loin. Un homme travaille soucieux de ne pas faiblir soudain. La machine avale ses doigts, trop longs à s'enfuir plus loin. Un colleur d'affiche reçoit quelques coups de trique pendant de secours. Sa tête fragile me dit, apprendrez-vous jamais à conjuguer au présent le verbe de soleil. La saoule et donne l'aube à de hauts fleurs qui brillent dans les temps plus loin. Un train qui déraille, fracas, gerbe de ferraille sur l'herbe, membres éclatés, stupeur, quelque part sur un quai plus loin. L'océan qui s'ouvre sur toi, petite lumière rouge blessée. Cœur, tout petit qui tape me dit, apprendrez-vous jamais à conjuguer au présent le verbe soleil. Chapeau clignotant signale entre deux brins d'herbe j'existe et c'est enivrant plus loin. Un vent énerveux émerge de ses paperasses, caresse sa barbe violette et saute du septième étage plus loin. Des politiciens s'amusent à compter les cartes truquées qu'il faudra demain jouer. Me dit, entre deux brins d'herbe et vous, apprendrez-vous jamais à conjuguer au présent le verbe soleil, à conjuguer au présent le verbe soleil, à conjuguer au présent le verbe soleil, à conjuguer au présent le verbe.
Lorsqu'on s'interroge sur le rapport que les femmes entretiennent avec le pouvoir en général et puis plus particulièrement le pouvoir qu'elles exercent elles-mêmes, on est vite tenté d'essayer de voir en quoi les gens agissent différemment entre les hommes et les femmes. Et en particulier, il y a quelque chose qui est revenu très rapidement et très fréquemment dans les interviews que nous avons fait, c'est le problème des compétences. Comme si, pour qu'une femme assure sa responsabilité et se fasse reconnaître sur ses compétences, il fallait qu'elle démontre beaucoup plus que n'ont besoin de le faire les hommes. Je ne sais pas, Christine,
c'est
si
ça,
si
qu'il fallait qu'elles fassent leurs preuves beaucoup plus au départ.
Beaucoup, oui, au départ, pour être reconnues, au départ, oui. Et même assez régulièrement dans les rapports qu'elles peuvent avoir avec l'extérieur, pour être acceptées et reconnues, il faut qu'elles prouvent absolument leur valeur. Et ça, c'est quelque chose d'important. Annick Elias nous a bien expliqué ce qu'il en est de cette question.
C'est une question de compétence. Je dis une anecdote, hein, être une élue au pouvoir, hein, parce que j'ai vécu tout ça aussi professionnellement, hein, puisque j'ai fait beaucoup de réunions extérieures professionnellement. Et il y a deux choses, il y a à la fois un atout d'être femme avec un certain pouvoir et des désavantages. L'atout, c'est que dans la plupart des assemblées, peut-être pas dans les contacts individuels, mais en groupe, où les rapports sont plus nets, je dis toujours qu'on bénéficie, à l'égard, à la différence d'un homme, d'un quart d'heure de ce que j'appelle de bonus. C'est-à-dire que quand on est femme, surtout quand, si c'est une assemblée masculine, hein, on dit mais qu'est-ce qu'elle va raconter, ça va être drôle. Donc il y a vraiment un taux d'attention que ne bénéficie pas un collègue masculin. Ça, je crois que c'est évident. Par contre, pour porter le jugement, ils seront, quand je dis 10 fois plus, c'est peut-être en le pourcentage, je crois qu'il ne faut pas le chiffrer, ils sont beaucoup plus critiques quant à nos connaissances. C'est-à-dire qu'on doit faire plus pour démontrer notre capacité. Et cela, c'est pas tout à fait normal. Mais donc, on a un quart d'heure pour faire nos preuves. Alors que je crois que cette façon d'être ne se présente pas du tout sur l'approche masculine. Parce qu'on dit, oh, qu'est-ce qu'il va nous raconter, on s'en fout. Alors, je crois qu'il faut vraiment connaître très très bien ces dossiers. Et je crois qu'à partir du moment où on a démontré à quelques interlocuteurs qu'on connaît ces dossiers, qu'on se situe sur un plan technique, enfin du dialogue, du thème débattu, je crois qu'après, ça s'atténue.
Thank you.
Dans le cas des deux secrétaires de la section syndicale, parfois le problème a été plutôt de faire reconnaître leurs compétences en tant que secrétaires, et pour ça, il a parfois fallu qu'elles se soutiennent entre elles.
Donc vous avez un niveau de compétence à la rigueur et de responsabilité qui est reconnu.
Je crois, oui. Hein, parce que je crois que s'il n'avait pas été reconnu, ils auraient fait le point quoi là-dessus. Hein, si ça n'allait pas, je crois qu'ils auraient fait le point, tu crois pas?
Oui, je crois aussi, oui. Oui. Puis il y a quand même le temps, les années aussi qui font qu'on est plus compétent par... On s'est informé, et puis c'est vrai qu'on s'est informé sur le tas aussi, hein. De toute façon, on n'a pas eu une formation comme ça, de renseignements juridiques, etc. C'est à la force de voir les gens, bon, de chercher avec eux dans les livres, etc., puis qu'on a appris des choses, quoi.
Et c'est vrai qu'on travaille aussi, on travaillait beaucoup en équipe, hein. Y en a une qui était plus spécialisée sur les problèmes juridiques, une autre qui savait d'autres choses, et je crois quand même que quand on avait un gros problème, on se sollicitait, on se passait des coups de téléphone, on se voyait entre nous, on se donnait des sacrés coups de main, si tu veux. On a toujours fait en sorte de donner des renseignements aux gens, mais faire en sorte qu'ils ne se plantent pas, parce que c'était trop important, si tu veux, hein. Et dans ce cas-là, on faisait référence à l'autre, éventuellement, si on n'était pas sûr de nous, quoi, sûr de ce qu'on allait faire ou dire. Enfin, on se consultait régulièrement. Hein.
Ouais. Puis bon, on est quand même côte à côte, donc ouais. C'est plus facile de dire, bon, bah, je suis pas sûr, tu peux pas venir, quelque chose comme ça, quoi.
Alors la question qui nous brûlait les lèvres depuis le départ, c'était le pouvoir est-il donc synonyme d'autorité? Et s'il est, en ce cas, est-ce qu'on a affaire à des femmes autoritaires? Vous allez voir ce que nous a répondu Annick Elias.
Oui, je crois l'être devenue. Je ne pensais pas l'être adolescente ou jeune adulte. Par justement cette nécessité à chaque fois de faire mes preuves, je le suis peut-être devenue un petit peu. Je ne sais pas si c'est autoritaire, mais très directe, très affirmative justement.
Toujours sur la question de l'autoritarisme, Maddy Pierret a la vertu d'être franche.
Est-ce que votre fonction vous a parfois amené à être autoritaire ou autoritariste?
Je crois que je suis autoritaire de nature, c'est pas la peine de faire l'hypocrite, bien que je m'en défende bien entendu, mais je pense que je suis autoritaire. Mais quand je dis je suis autoritaire, je veux dire je le suis de caractère, de naissance. Je pense qu'il faut, le reconnaître, cela dit. Comment ça se traduit, l'autorité? Ça se traduit par des formes extrêmement diverses. Je veux dire, on peut donner des ordres. Voilà, ça c'est la forme autoritaire reconnue. Bon, moi je dirais plutôt que je suis autoritaire en ce sens que je suis volontariste. C'est-à-dire je veux quelque chose et je l'obtiens. Et je dirais que l'autre méthode d'être autoritaire, c'est celle-là. C'est-à-dire on veut quelque chose et on s'en donne les moyens. Et je veux dire que sans donner des ordres, il y a des comportements, des systèmes relationnels qui font que tu obtiens ce que tu veux. Donc, en ce sens, je dis, je suis autoritaire.
Dans certains cas aussi, les secrétaires doivent faire preuve d'autorité.
Dans mon cas, quelquefois, oui. Hein, en disant que... Enfin, c'est vrai que je les envoyais balader, en disant que leur truc n'était pas prioritaire et qu'il y avait des choses qui passaient devant. Quelquefois, moi, mais je peux dire... Enfin, rarement, quand même. Hein.
Moi, ça m'est arrivé, d'ailleurs, ça rejoint un petit peu le travail de nous deux, c'est que des gens, enfin, ou des militants viennent chercher un renseignement, bon, nous demandent notre avis,
On s'aperçoit que quelque temps après, ils sont repassés derrière pour avoir une confirmation par un permanent, parce qu'ils sont plus sûrs. Et puis ça tourne quelquefois pendant quelques temps comme ça, et puis tout d'un coup, ils reviennent nous demander un renseignement, et ils vont toujours chercher autre chose. Et ça nous est arrivé dans un cas précis, toutes les deux, où on a envoyé, on a dit clairement à une personne que de toute façon, c'était pas la peine qu'elle nous demande un renseignement, on sait très bien qu'elle ira voir ailleurs si c'est vrai ce qu'on a dit. Et là, bon, moi, ça, on me fait le coup deux, trois fois, mais après, c'est vrai que ben, je mets un terme à ça, et puis j'envoie, je suis pas très, très pratique, très commode, quoi.
Nous avons donc là entamé un certain nombre de questions intéressantes. Comment les femmes que nous avons rencontrées sont-elles arrivées au pouvoir? Qu'est-ce qu'il leur a fallu comme disponibilité ou comme compétence? Savoir si elles étaient simplement des autorités ou des autoritaristes? Maintenant, nous sommes arrivés à la question qui est un petit peu la question de fond dans notre façon d'approcher ce problème. C'est à savoir comment est conçu ou comment est analysé le pouvoir que les différentes femmes que nous avons rencontrées détiennent. C'est-à-dire, en définitive, quelle est leur conception du pouvoir. Alors, tout de suite, c'est Catherine Renard du CIJB qui nous explique ce qu'elle pense, elle, du pouvoir tel qu'il est conçu maintenant et tel qu'elle le voit.
Le pouvoir tel qu'il est conçu maintenant, c'est d'abord quelque chose qui se cherche, qui se brigue, qui se demande. On fait quelque chose pour avoir le pouvoir. En ce moment, l'idée généralement admise, c'est que c'est un but. Hein. On cherche le pouvoir comme un but, et une fois qu'on l'a, c'est pour décider, pour faire en sorte que les gens et les actions dépendent de soi. Pour moi, il me semble que le pouvoir, pour l'instant, généralement admis, c'est ça. C'est d'abord quelque chose qu'on cherche, et une fois qu'on l'a, on fait que les gens et les choses dépendent de vous. Hein, c'est une situation de dépendance où on se met, j'ai le pouvoir, les choses dépendent de moi. Le pouvoir qu'on avait essayé, je dis toujours on et nous, parce que la réflexion, elle a été effectivement collégiale, même si après tout, je me reconnais une grande part de responsabilité dans cette histoire-là. Je pense que le pouvoir, c'est un moyen qu'il est drôlement important d'avoir, peut-être bien, à un moment donné. Ça dépend de l'analyse qu'on en fait. Mais c'est un moyen. Et pourquoi en faire? Eh bien, c'est un moyen pour apprendre aux gens à le prendre eux-mêmes. Bon, alors, ça fait de la théorie, mais ça n'empêche que quand j'étais à la direction du CIJ, je m'efforçais de faire que les cinq femmes qui travaillaient avec moi pouvaient faire preuve de création, d'imagination, de sens des responsabilités, c'est-à-dire qu'elles pouvaient décider quelque chose et le faire jusqu'au bout. Si moi, je n'étais pas d'accord, en tant que directrice, mon boulot, c'était d'assumer ce qu'elles avaient fait. Mais elles l'avaient choisi, elles l'avaient pesé, elles l'avaient fait. Bon. Il y a d'autres façons de travailler, même de travailler en équipe. C'est de prendre l'avis d'une équipe et puis de dire bah non, moi je suis pas d'accord avec vous et comme je suis le directeur, désolé, c'est moi qui ai la responsabilité, donc c'est moi qui tranche. C'est une façon de travailler en équipe. On n'avait pas fait ça, même si j'étais pas d'accord, Ça arrivait fort peu souvent parce que finalement, comme tout se créait, bon, c'était que sur peut-être des choses qui n'étaient pas trop importantes. Les femmes qui travaillaient avec moi prenaient la responsabilité, allaient jusqu'au bout. Et puis moi, mon boulot, c'était de l'assumer. Et c'était en ça que j'étais directrice.
La conception du pouvoir pour Mardi Pierret, eh bien, il s'est parfois construit à partir de conflits auxquels elle a eu à faire face.
J'ai fait plusieurs métiers, j'ai toujours eu des directeurs et j'ai toujours eu des problèmes avec eux. Et j'ai longtemps pensé que ça venait de ma personnalité. Quelqu'un a même dit une fois que j'étais une bouffeuse de directeur, ce qui est extrêmement dangereux, mais pour moi d'abord et pour mes dents bien entendu, mais... Maintenant, avec un peu plus de recul, je ne pense pas que ce soit uniquement ça. Il y a sûrement un problème de personnalité, mais je crois que les hommes vivent très mal le partage du pouvoir en tant que tel, en tant qu'être masculin, d'abord. Et puis deuxièmement, je veux dire, quand on n'a pas la même conception justement du partage du pouvoir, il y a toujours des conflits. Je veux dire que j'aurais eu une femme directrice qui avait une certaine conception du pouvoir, j'aurais sans doute vécu les mêmes problèmes. Bon. Un autre type de conflit que j'ai pu avoir, effectivement, c'est qu'une fois, je suis intervenue dans une commission et j'ai dit, dans un groupe de travail plus exactement, et j'ai dit quelque chose que le pouvoir politique en place de l'époque ne voulait pas que ce soit su. Et on m'a prié tout bêtement de rester tranquille pendant 2 mois, pratiquement à ne rien faire. Bon, c'est le genre de limite, justement, d'une conception d'un pouvoir. Je considère qu'à la place que j'occupe, je me dois de partager le pouvoir, donc de partager l'information et de la faire connaître dès que je la possède. Bon, et là, il y a eu conflit, effectivement, d'un autre pouvoir qui, lui, jugeait stratégiquement, enfin, etc., et à la limite, censurait mon travail dans ma conception de mon travail. Est-ce que je suis claire?
C'est-à-dire que le pouvoir, pour vous, c'est aussi le communiquer aux autres.
Exactement. Et dans la mesure, bien sûr, des responsabilités. Je veux dire, partager le pouvoir, faire attention, ça ne veut pas dire se débarrasser soi de ce qu'on doit faire, c'est-à-dire de la responsabilisation que l'on a assumée. Ça veut dire aussi donc assumer ces responsabilités-là et déléguer le pouvoir. Par exemple, je considère qu'à un certain niveau de pouvoir, bon, je suis cadre, effectivement, la moindre erreur commise par quelqu'un qui est sous mes ordres, c'est moi qui en suis responsable.
Pour Annick Elias, vous allez l'entendre, la notion de pouvoir est un petit peu différente, même si elle n'est pas finalement si éloignée de celle de Catherine Renard ou de Mady Pierret. En tout cas, pour elle, il s'agit d'exercer son pouvoir, peut-être pas tout à fait de le partager.
Que l'individu que je suis, ayant été élue, je suis adjointe, ait acquis un pouvoir, c'est évident. Mais je ne crois pas qu'il y ait une différence entre hommes et femmes. On devient un représentant d'une population et ceci n'est pas rien et je crois que nous en sommes fiers. Moi, j'en suis totalement consciente. Le problème est de ne pas se l'approprier pour soi, c'est-à-dire qu'on acquiert un certain pouvoir à nous de l'utiliser. Mais là, alors, parce que comme le thème est la femme et le pouvoir, je crois que c'est tout à fait vrai aussi pour un homme. Le problème est, de ne pas s'approprier ce pouvoir et de l'utiliser, puisqu'on en a un réel, de l'utiliser au service des idées des hommes et des femmes qui nous ont élus.
Les égarés ne causent guère, les égarés ne causent pas. s'adressent à nous au travers des notes graves de la joie. Les égarés ne causent guère. Condamnés à passer pour folle, leur mélodie serre le cou. Des officiants de la parole qui ne veulent rien dire du tout, et il paraît qu'il en existe. Les égarés font de beaux rêves, rêves de couleurs de lumière, qui s'obstinent quand le jour crève l'abcès humain de la terre. Les égarés font de beaux rêves. Il se peut que ce chant paisible devienne le chant mal aimé, qui atteint au cœur de leur cible ceux qui ne rêvent jamais. Il paraît qu'il en existe. Les égarés sont en vacances, il ne faut pas compter sur eux. S'il faut renforcer la cadence d'un méchant troupeau dangereux, les égarés sont en vacances.
Vous écoutez Radio Pleine Lune sur Radio Zone 101,4 MHz. Dans le cadre d'un programme sur la rencontre internationale des radios libres à Montréal en août 83, vous venez d'entendre la retransmission d'une émission réalisée par les femmes de À Tire-d'Aile de Radio Vilaine à Rennes. Vous écoutez Radio Pleine Lune. Radio Pleine Lune émet en direct tous les mercredis dès 19h. L'émission que vous entendez est retransmise en différé et en continu jusqu'à jeudi 19h environ, heure à laquelle reprennent les émissions de Radio Zone en direct. Petit memento de la semaine pour les femmes. Mercredi prochain, 19 octobre à 10h, rendez-vous au Palais de Justice à Genève pour le recours en cassation des violeurs de la bande des Pharaons. Au Centre Femmes, permanence tous les mercredis de 15 à 17h. Repas tous les jeudis dès 19h. Adresse du Centre Femmes, 5 boulevard Saint-Georges à Genève, téléphone 29 22 98. Vous êtes à l'écoute de Radio Pleine Lune, vous allez entendre une émission sur la rencontre internationale des radios libres à Montréal.
Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien. Rien que de la musique, ce ne sera rien, rien que des mots, des mots, des mots, comme à la radio. Ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes, ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent, ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, juste pour faire du bruit. Le silence est atroce. Quelque chose est atroce aussi. Entre les deux, c'est la radio. Juste un peu de bruit pour combler le silence. Tout juste un peu de bruit et rien de plus. Tout juste un peu de bruit, n'ayez pas peur, ce sera tout à fait sur les routes. À cette minute, un médecin alcoolique jurera au-dessus du corps d'une jeune fille et il dira: elle ne va pas me claquer entre les doigts, la garce. À cette minute, cinq vieilles dans un jardin public entameront la question de savoir s'il est moins 20 ou moins 5. À cette minute, des milliers et des milliers de gens penseront que la vie est horrible et ils pleureront. À cette minute, deux policiers entreront dans une ambulance et ils jetteront dans la rivière un jeune homme blessé à la tête. À cette minute, une vieille dame ivre-morte gémira seule au dernier étage sous son lit et ne pourra plus bouger. À cette minute, un Espagnol sera bien content d'avoir trouvé du travail.